Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la troisième émission de la présentation de Sortir du capitalisme. Et aujourd'hui, cette émission sera dédiée à la réflexion autour des pistes et des différentes théories et critiques sur la sortie pratique du capitalisme. Bonjour Armand.
Bonjour.
Du coup, comment t'envisages toi cette question de la sortie, cette question de comment sortir de cette merde?
Alors, déjà, je pense que ce qui est important et intéressant, c'est de penser en même temps, et je pense que c'est pour ça que c'était important de faire une émission qui couple les deux, de pas découpler la question de comment sortir du capitalisme au sens de quel type d'organisation ou pas pour sortir du capitalisme, quelle stratégie, quelle tactique, etc., etc., et la question de pas découpler donc ces questions plus on va dire stratégiques de la question de l'horizon vers lequel tendrait un mouvement anticapitaliste, de pas découpler donc d'une certaine manière les moyens et les fins. Alors évidemment c'est quelque chose avec lequel tout le monde serait pas forcément d'accord, et l'idée de cette émission sera justement de montrer en quoi est-ce que c'est important de penser les moyens et les fins et de penser que par exemple, dans le cadre d'un mouvement qui serait organisé de manière autoritaire, centralisée, hiérarchique, dans lequel globalement seule une minorité prendrait les décisions et la majorité serait simplement reléguée au rôle de pion et de militant obéissant, que ça ne peut mener que à une société qui reproduirait d'une certaine manière cette organisation hiérarchique, centralisée et dictatoriale. Et évidemment, un exemple assez classique, évidemment, c'est la révolution russe, et notamment la révolution bolchevique d'octobre 1917. Donc, ce qui me semble important de dire, c'est que ces questions-là se sont posées en fait très tôt dans le mouvement socialiste, dès ses débuts, dans les années 1830-1840 en France, par exemple. Ces questions se sont posées, elles se sont reposées au moment de la Première Internationale. Et globalement, ce qu'on peut dire pour disons les enseignements les plus contemporains, puisqu'il ne s'agit pas ici de présenter toute l'histoire des courants politiques de gauche et d'extrême gauche depuis 1830, ça serait un peu long. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que assez tôt, il y a eu une division entre ceux qui pensaient que la révolution sociale devrait être le fait d'une minorité de révolutionnaires professionnels qui prendraient le pouvoir d'État et qui ensuite instaureraient le socialisme, alors qui est évidemment défini de manière très différente en fonction des courants. Donc par exemple, c'est le cas de toute la tradition blanquiste, à partir donc de Blanqui des années 1830, de toute la tradition, on va dire, qui au début est républicaine, mais qui va virer plus socialiste au fur et à mesure du temps. Et c'est ensuite finalement une perspective qu'on va retrouver notamment chez Lénine. Donc voilà, il y a toute une filiation, et finalement jusqu'à finalement les mouvements marxistes-léninistes, trotskistes, maoïstes, il y a quand même l'idée finalement que les masses peuvent être là, évidemment, peuvent jouer un rôle, mais simplement en appui et ou sous la direction révolutionnaire d'une minorité qui est en réalité à la tête de la révolution. Et face à cette perspective-là, dès la Première Internationale et même un petit peu avant, il y a certains penseurs qui ne sont pas anarchistes à proprement parler, qu'on va qualifier, disons, d'anti-autoritaires, et qui considèrent que une révolution anticapitaliste qui serait menée par une sorte de minorité dictatoriale, eh bien, ne peut aboutir qu'à une société elle-même gouvernée par une minorité dictatoriale, et que finalement, le type d'organisation préconisé par les blanquistes puis par les marxistes ne pouvait aboutir finalement qu'à une reproduction finalement des rapports de domination dans la société post-capitaliste. Même certains iront jusqu'à dire que de ce fait finalement ils reproduiraient aussi la logique capitaliste, et simplement que le capitalisme ne serait plus disons une société dominée par les propriétaires d'entreprises, mais une société dominée par un propriétaire d'entreprise qui serait en fait l'État, gouverné par cette minorité dictatoriale qui était, disons, à la tête du parti révolutionnaire qu'il a emporté, ou de la minorité conspiratrice, si on parle des blanquistes. Et donc, par exemple, une critique que va faire assez tôt Bakounine, qui est considéré comme un précurseur de l'anarchisme à Marx, et au marxisme plus généralement, c'est finalement l'idée que, en plaçant les espoirs d'une transformation révolutionnaire non pas dans les classes populaires, au sens large, mais dans une minorité de révolutionnaires professionnels organisés en partie, avec éventuellement des militants de base, mais disons où la révolution serait quand même le fait, voilà, de cette minorité de révolutionnaires professionnels organisés en partie, qui participent ou pas aux élections, qui sont liés ou pas aux syndicats. Il y a plein de différentes stratégies, hein, dans le marxisme, mais globalement, ce qu'annonce Bakounine, c'est l'idée, et là je cite, « Dans l'état populaire de Monsieur Marx, nous dit-on, il n'y aura pas de classe privilégiée. » Et ensuite, il explique que le socialisme tel que le conçoit Marx, ça présuppose une gigantesque organisation bureaucratique, étatique de la production, où globalement la société ne serait plus gouvernée par les lois du marché et les entreprises, mais par l'État, organisé en une multitude d'entreprises, et où globalement il y aura un commandement, disons, du haut vers le bas. Et ce qu'il dit, c'est que toute cette organisation exigera une science immense et beaucoup de têtes débordantes de cervelle dans ce gouvernement. Ce sera le règne de l'intelligence scientifique, le plus aristocratique, le plus despotique, le plus arrogant et le plus méprisant de tous les régimes. Il y aura une nouvelle classe, une hiérarchie nouvelle de savants réels et fictifs, et le monde se partagera en une minorité dominante au nom de la science et une immense majorité ignorante. Tout État, même le plus républicain et le plus démocratique, n'est pas autre chose que le gouvernement des masses de haut en bas, par une minorité savante et par cela même privilégiée, soi-disant comprenant mieux les véritables intérêts du peuple que le peuple lui-même. Donc on voit finalement que Bakounine observe déjà, finalement, dans le projet marxiste tel qu'il transparaît dans le manifeste du Parti communiste de 1848, le fait que une organisation révolutionnaire en partie, avec donc une minorité globalement qui appartient souvent à la petite bourgeoisie et à la moyenne bourgeoisie intellectuelle, que finalement, ce type d'organisation-là, avec ce type d'objectif-là, c'est-à-dire la prise du pouvoir étatique par cette minorité pour que l'État transforme la société sur un mode socialiste, ne peut aboutir en réalité qu'à l'avènement d'une nouvelle classe dominante qui est précisément composée de cette petite et moyenne bourgeoisie révolutionnaire. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu en URSS, où l'ancienne classe dominante des propriétaires aristocratiques et de la famille tsariste a été remplacée par, globalement, les hauts dirigeants du parti communiste, du parti bolchevique. Et du coup, ce que suggère déjà Bakounine, et ce qui est assez intéressant, c'est que son extrait, voilà, date vraiment des années 1860-1870, prophétise déjà d'une certaine manière, même si, bon, pas tout prévoir, et même si il ne s'agit pas de dire que la théorie de Marx allait forcément mener à l'URSS telle qu'elle a été telle qu'elle a existé, mais globalement de dire que déjà dans le projet marxiste finalement d'une transformation sociale opérée par une minorité révolutionnaire organisée en partie, dont le but est de prendre le pouvoir d'État et qui ensuite à partir de ce pouvoir d'État transforme la société par en haut, il y a déjà entre guillemets les germes d'une nouvelle classe dominante et d'une nouvelle forme de domination sociale. Et du coup, par rapport à ça, toute une tradition anti-autoritaire, puis qui va devenir, entre guillemets, anarchiste, va se développer. Alors, Donc, bon, évidemment, le premier exemple qu'on peut citer en termes de réalisation pratique, c'est la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris, c'est un exemple assez intéressant, puisque à la fois les marxistes s'en réclament parce que il y a malgré tout le maintien d'une forme d'État, mais en même temps, c'est un État extrêmement décentralisé, où globalement, par exemple, beaucoup de choses se passent au niveau des arrondissements de Paris, où il y a quand même une forme de démocratie directe assez forte. Il y a des élections de délégués, de représentants, mais l'essentiel quand même de la démocratie, des décisions se prennent quand même à un niveau local. Et en même temps, donc voilà, la tradition plus anti-autoritaire de Bakounine va y voir justement l'annonciation d'une société, disons, gouvernée par en bas et pas par en haut, par l'État. Alors, ce qui fait que effectivement, à un moment, Marx et Bakounine, que beaucoup de choses séparées dans les années 1850 et 1860, vont se rapprocher autour de la Commune de Paris, puisque Marx va considérer que peut-être que la Commune de Paris, finalement, c'est ça, la fameuse dictature du prolétariat. Et du coup, Marx, dans les années 1870 et 1880, va se rapprocher finalement de l'idée, il va jamais rompre totalement avec ce qu'on connaît du marxisme aujourd'hui, l'idée d'un parti qui prend le pouvoir par des élections ou par un coup de force, et qui ensuite transforme la société par en haut, par l'État. Mais malgré tout, il va commencer à envisager plus favorablement, disons, l'idée plus voilà, de forme de démocratie directe, où la politique et l'économie, ou disons la société post-capitaliste, serait pas gouvernée par un État, mais serait plutôt en fait un ensemble, disons, une fédération de communes. Mais bon, voilà, ça c'est ce que Marx commence à penser dans les années 1870-1880, mais globalement, c'est pas ce que va retenir la tradition marxiste. Alors, après un autre débat, outre la question de qui fait la révolution, est-ce que ce sont les classes populaires ou est-ce que c'est un parti, une organisation centralisée et conduite par une minorité, la question qui va se poser, et là-dessus, finalement, au début, tout le monde est d'accord, c'est quel type de société derrière. Et donc, la critique du capitalisme qui est développée dans la Première Internationale, tant chez Bakounine que chez Marx, c'est l'idée que les capitalistes volent les prolétaires par un mécanisme qu'on appelle, que les marxistes, par exemple, appellent le surtravail. Et donc, il s'agit finalement de redonner aux travailleurs l'ensemble de ce qu'il a produit et non plus qu'il soit dépossédé par le capitaliste. Et donc, l'idée, finalement, tant chez Bakounine que chez Marx, et finalement aussi un peu chez Proudhon, c'est l'idée finalement que finalement les travailleurs, qu'il n'y ait plus de distinction entre finalement les travailleurs et les capitalistes d'une part, mais que finalement les travailleurs possèdent leurs moyens de production et les autogèrent. Alors, sous la direction de l'État chez Marx, sans la direction de l'État chez Bakounine, et globalement c'est ça l'horizon commun, c'est ce qu'on appelle le collectivisme. Et certains dans les années 1870-1880 vont critiquer cette perspective en disant, le problème avec ça, c'est que du coup, pour être sûr que ce que tel travailleur ou telle travailleuse a produit lui revienne intégralement, il va falloir calculer. Il va falloir calculer son temps de travail, il va falloir calculer sa productivité, il va falloir calculer voilà, qu'est-ce que il ou elle a produit, pour pouvoir lui reverser exactement ce que elle ou il a produit. Et le problème, ce que disent Kropotkin et Reclus, qui sont les fondateurs d'un courant qu'on va appeler le communisme libertaire, c'est de dire, le problème avec cette idée, c'est que du coup, même si on est dans une perspective où la société s'auto-organise par en bas, par le biais de la démocratie directe et locale, avec simplement un niveau fédéral pour, disons, gérer les affaires qui ne sont pas locales, disons que même dans cette perspective, il faut quand même une énorme machinerie bureaucratique et administrative pour enregistrer exactement ce que tous les travailleurs et travailleuses ont fait et pour pouvoir leur rétribuer ce qu'ils ont produit. Et donc ce qu'ils disent, donc notamment Kropotkin et Reclus, c'est que d'une certaine manière, finalement, cela va aboutir à recréer ce que précisément les courants anti-autoritaires cherchaient à éviter, c'est-à-dire une énorme machinerie bureaucratique qui finirait par dominer la société et donc finalement qui recréerait d'une certaine manière l'État. Et alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que, un, ça porte le danger finalement d'une nouvelle forme de domination et d'une nouvelle classe dominante, et deux, eux vont préférer l'idée, plutôt que de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire en gros, on reçoit ce qu'on a produit, eux vont préférer un autre, disons, leitmotiv, qui sera de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Et en ça, disons qu'ils rompent finalement avec la logique finalement du travail, qui est quand même une logique finalement, voilà, qui est très prégnante dans le capitalisme, c'est-à-dire l'idée qu'on reçoit en fonction de ce qu'on a produit, de ce qu'on a travaillé. Alors évidemment, dans le capitalisme, moins une ponction sur le salaire, qui est la ponction du capital, le profit, la plus-value, mais malgré tout, voilà, l'idée quand même du capitalisme, c'est que on est rétribué en fonction de ce qu'on a produit, de l'effort qu'on a fourni, de sa productivité, de son habileté, de ses qualifications, etc. Et là, chez les communistes libertaires, au contraire, l'idée, c'est que justement, ce qui était nié dans le capitalisme, c'est-à-dire le fait que la production, même si on ne peut pas vraiment penser la production indépendamment du reste, mais disons que la production des biens et des services essentiels dans le capitalisme, elle se fait selon la logique des lois du marché et du profit. Et là, l'idée, c'est de ne pas l'organiser non plus selon une base bureaucratique de telle personne a le droit à temps parce qu'elle a travaillé telle durée, à tel niveau de productivité, avec tel niveau de qualification, et plutôt de dire, finalement, qu'est-ce qui compte ? La production, elle doit répondre à des besoins, et donc, d'où l'idée du communisme libertaire, d'organiser la production collectivement en définissant les objectifs, par exemple, de production démocratiquement à l'échelle locale et puis éventuellement fédérale pour les choses qui dépassent le cadre local, et que ensuite, finalement, le but étant d'assurer ces besoins qui sont définis démocratiquement, eh bien, ensuite, les individus qui ont participé plus ou moins, disons, à ce processus de production, et y compris ceux qui ne peuvent pas y participer, comme les enfants en bas âge, les personnes très âgées, les personnes handicapées, etc., de toute façon, reçoivent une part qui correspond à leurs besoins, bon, évidemment, si la production est suffisante. Alors, évidemment, un exemple de ça, qu'on a développé dans des émissions, c'est ce qui s'est passé en Aragon en 1936-1937, pendant la Révolution. Mais en réalité, ça s'est produit aussi à d'autres moments, en Ukraine, après 1917, pendant une courte période, etc. Avec l'idée que si la production est suffisante, chacun se sert selon ses besoins, et si la production est insuffisante, bon bah évidemment, c'est au prorata de à quel point, disons que tout le monde ait en partie ses besoins, un minimum, disons, ses besoins satisfaits. Et donc voilà, c'est l'idée du communisme libertaire, avec l'idée aussi encore une fois d'une fédération, c'est-à-dire que, certes, il s'agit avant tout de répondre aux besoins locaux, mais qu'il faut aussi prendre en compte, disons, les besoins, par exemple, de zones qui n'auraient pas accès à telles ressources, etc. Et donc, l'idée quand même du communisme libertaire, c'est de baser, disons, l'organisation de la société et de la production, évidemment sur la base de l'anarchisme, diront les uns, de la démocratie directe, diront les autres, à un niveau local et à un niveau fédératif pour, disons, les questions qui excèdent les questions locales, mais aussi, finalement, de baser aussi la question de la production sur les besoins, et non pas comme dans le capitalisme, sur la question du profit, ou comme dans le modèle collectiviste, sur la question, finalement, du travail, du temps de travail, de la qualification, etc.
Maintenant qu'on a fait la critique des partis et qu'on a fait la critique des formes bureaucratiques et intellectuelles de socialisme, et qu'on a établi que une des formes les plus émancipatrices de la société future serait le communisme libertaire, comment, par quels moyens, par quel chemin on y arrive
Oui, alors effectivement, c'est une question assez intéressante, et d'ailleurs, de manière provocatrice, on pourrait dire que le communisme libertaire est officiellement l'objectif, y compris de Marx. Par exemple, dans la critique du programme de Gotha, en 1875, il dit, finalement, à un moment, il faudra en finir finalement avec le principe collectiviste de chacun selon son travail, à chacun selon ses œuvres, il faudra en finir, et il faudra remplacer ça par de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Donc finalement, comme horizon, d'ailleurs, il faut se souvenir que même Staline, même Mao, etc., leur horizon proclamé, hein, évidemment, que proclamé, c'était le communisme. Et le communisme, c'est précisément, finalement, une société qui s'auto-organiserait sur la base de la satisfaction des besoins. D'une certaine manière, même Lénine pensait que c'était l'horizon souhaitable. Par exemple, il théorisait le dépérissement de l'État. Et alors, évidemment, la différence entre, d'un côté, la tradition anti-autoritaire et la tradition marxiste et léniniste, c'est que dans la tradition anti-autoritaire anarchiste, globalement, on pense que on ne peut pas aboutir à ce communisme libertaire, cette société de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, organisée démocratiquement sans État, sans s'être préalablement organisé pour abattre le capitalisme sur cette même base. Donc évidemment, c'est là quand même la grosse différence, qui est quand même une différence assez énorme, et qui est encore une fois la question du fait que chez les anarchistes et les anti-autoritaires de manière générale, la question des moyens, la question de l'organisation avec laquelle on va abattre le capitalisme, va nous donner quel type de société on va donner. Là où chez les léninistes et les marxistes plus généralement, il y a l'illusion finalement que on peut aboutir à une société parfaitement émancipée et sans hiérarchie à partir d'une organisation qui est précisément basée sur la hiérarchie, la dictature et la discipline, et qui évidemment trouve son archétype dans le parti bolchevique, son interdiction des fractions, sa dictature sur le reste de la société, y compris sur les membres du parti, etc. etc.
Oui, mais même on pourrait dire que dans une certaine mesure, t'as dit que Staline et Mao, ils avaient cette idée du communisme. On peut dire que le marxisme de cette époque était tellement productiviste que je sais que Khrouchtchev, par exemple, il avait lancé un slogan qui était « le communisme dans 20 ans ». Et en fait, son idée du communisme, c'était une idée très économiciste, en fait. C'était juste la société de consommation, en fait. C'était juste on atteindra le communisme quand les soviétiques auraient tous à manger et des supermarchés bien remplis.
Alors effectivement, c'est une remarque très intéressante pour aujourd'hui, parce qu'effectivement, globalement, là où on peut remarquer que malgré tout, il y a des convergences malgré tout entre d'une part les communistes libertaires et d'autre part, disons, plus la tradition marxiste et léniniste, c'est le fait que globalement, ils envisagent tous deux le communisme libertaire dans un cas et le communisme tout court, mais bon, globalement, qui est censé représenter la même type de société. Dans les deux cas, ils envisagent ça comme une société finalement où le développement des forces productives, des machines, des transports, des énergies, etc., etc., aurait été poussé tellement loin que finalement, eh bien, du coup, le règne de la nécessité, le règne entre guillemets de la précarité matérielle, du manque de nourriture, de logement, etc., aurait été aboli. Et du coup, grâce à ce développement des forces productives, on pourrait distribuer aux gens en fonction de leurs besoins, puisque finalement, on produirait tellement qu'on n'aurait pas besoin de les répartir selon d'autres principes, que ce soit selon son travail ou en fonction d'une forme d'attribution à chacun, d'une certaine quantité, parce que bon, il n'y a pas une quantité infinie, quoi. Et alors ça, effectivement, le problème effectivement de cet horizon, c'est que ça ne pense pas du tout la question des limites écologiques à la production, la question de l'impact écologique de la production, au moins un point de vue théorique. Ça repose beaucoup quand même sur l'idée d'une automation, d'un remplacement des humains, disons, par des machines, qui en soi n'est pas forcément un horizon, dictatorial, puisque théoriquement, en tout cas, les sociétés contrôlent les moyens de production, mais ces moyens de production quand même orientent dans un certain type de société. Évidemment, plus une société est technologisée, plus ça donne un certain pouvoir à ceux qui contrôlent les machines. Et donc évidemment, on peut facilement rebasculer vers ce que Kropotkin et Reclus dénonçaient dans le collectivisme, à savoir, encore une fois, une société qui serait gouvernée par des savants, des bureaucrates, des techniciens, etc. Donc évidemment, il y a cette question-là qui se pose, il y a la question des limites écologiques qui se pose, évidemment, et il y a la question aussi, comme tu disais, d'une certaine forme d'économicisme. C'est-à-dire que globalement, est-ce que finalement le communisme, du coup, c'est une sorte de société de consommation, mais accessible à tous? Alors ça pose, évidemment, encore une fois, le problème de la question écologique, et ça pose aussi la question, et là, pour le coup, c'est très clair avec Khrouchtchev, l'idée que finalement, ça veut quand même dire, si le but, c'est de produire un maximum pour que tout le monde soit un consommateur satisfait, ça veut dire encore une fois que finalement, ce ne sont pas vraiment les êtres humains qui contrôlent les finalités de la production et les modalités de la production, mais simplement, encore une fois, une bureaucratie qui, tendanciellement, va s'accaparer à elle tout le pouvoir, et c'était le cas en URSS.
Comment dire, ça vient de la vision des marxistes, la vision de Khrouchtchev, mais c'est quand même spécifique à ce moment de l'histoire. Même, je pense pas que Staline pensait le communisme comme une pure société de consommation. C'est vraiment au moment où Khrouchtchev, ou en fait, dans sa concurrence avec l'Ouest, va tout faire pour imiter l'Ouest, notamment, en fait, créer des supermarchés, voilà.
Ah, bien sûr. Non, mais t'as raison. Mais c'est intéressant, effectivement, de se dire, pour aujourd'hui, disons, que le communisme libertaire, ça veut pas forcément dire aujourd'hui la société de consommation accessible à tous, pour, je pense, principalement deux raisons. La première raison, évidemment, c'est une raison écologique, mais je pense que c'est celle qui vient immédiatement à l'esprit. Et puis là, je pense que la deuxième raison, mais qui, à mon avis, est plus fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de société de consommation sans avoir, d'une certaine manière, une société de production séparée. Et si on sépare, comme aujourd'hui, la production de la consommation, alors le but, c'est de produire le maximum de marchandises avec le minimum, disons, de coûts de production. Et du coup, on ne peut avoir, si ce qu'on vise, c'est une société de consommation, disons, accessible à tous, alors on vise aussi le fait que, du coup, tout le monde va devoir produire dans des usines ultra performantes, des marchandises, un seul type de marchandises. Tout le monde va être à la chaîne. Et évidemment, c'est pas non plus un horizon très émancipateur, puisque globalement, ça reproduirait les mêmes logiques qu'aujourd'hui en termes de travail. Également, ça veut dire aussi que, c'est évidemment la fameuse question du smartphone. Est-ce que le communisme libertaire, c'est tout le monde a un smartphone gratuit? Oui, théoriquement, si les gens le décident, au-delà de la question écologique, il n'y a pas de limite absolue à ça. Mais le problème, c'est que, un, ça présuppose une société globalisée, quand même régie encore par des formes de régulation du marché ou de l'État qui favorisent quand même la recréation d'une classe dominante au-dessus de nous. Et deuxièmement, ça veut dire aussi que du coup tout le monde est enfermé dans un seul emploi, fait une seule et même chose toute la journée. Et troisièmement, ça pose aussi la question de, par exemple pour faire des smartphones, il faut tout un tas de composés qui nécessitent d'aller dans des mines, qui nécessitent des processus, disons, de production, notamment de terres rares qui sont cancérigènes. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui seraient prêts à sacrifier pour le bon fonctionnement de cette société de consommation. C'est un peu comme si on disait la question, est-ce que le communisme libertaire, c'est l'électricité gratuite pour tous à partir de centrales nucléaires? Ça poserait trois problèmes. Le problème écologique, la radioactivité et les accidents nucléaires potentiels. Deux, la possibilité de la recréation d'une forme de classe dominante qui serait là, les ex-ingénieurs des sociétés qui gèrent les entreprises nucléaires, donc en France Areva. Et le troisième problème, ça serait que du coup, il faudrait toujours qu'il y ait des travailleurs qui travaillent dans ces entreprises nucléaires et donc qui, d'une certaine manière, sacrifient un peu leur santé pour nous. Mais je pense que ta question, elle est vraiment intéressante parce que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense communisme libertaire, je pense qu'on aboutit à ça et d'une certaine manière, je pense que c'était aussi un peu l'écueil finalement de la vision de Reclus et de Kropotkin. C'est de pas avoir vu finalement que, certes, le fait de ne pas mesurer le temps de travail et la valeur, etc., disons, ça ne favorisait pas la création d'une bureaucratie qui, justement, dans le collectivisme, mesuré ce temps de travail et distribué les produits en fonction de ce temps de travail. Mais malgré tout, ça veut dire quand même qu'il y a quand même une bureaucratie qui, maîtrise les moyens de production, à moins qu'on imagine une société où tout le monde est ingénieur. Malgré tout, dans toutes les usines, il y a toujours des ouvriers et des ingénieurs. Donc, tendanciellement, disons, le projet de Reclus et de Kropotkin, même ce projet, disons, anarchiste, communiste, libertaire, malgré ses avantages, avait quand même buté sur la question, évidemment, de l'écologie, mais aussi sur la question de la reproduction, finalement, de formes de domination basées sur le savoir technique d'ingénieurs et la recréation aussi, d'une division du travail. C'est là où, évidemment, aujourd'hui... L'idée du communisme libertaire, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans la communisation. C'est plus l'idée qu'il n'y ait pas de production et de besoins séparés, mais que les gens produisent ce dont ils ont besoin, de la manière dont ils ont envie, et que finalement, il n'y ait plus vraiment de séparation non plus entre, finalement, le travail et hors travail, puisque, d'une certaine manière, l'idée, dans le dépassement du travail, c'est que quand les gens réalisent des activités, qu'elles soient productives ou non, à la fois, ils satisfont leurs besoins, mais ils ne satisfont pas leurs besoins comme quelque chose de séparé, mais ils satisfont par exemple leurs besoins de, mettre les mains dans la terre en faisant du jardinage et en même temps, ils satisfont leurs besoins alimentaires. Mais évidemment, là, on est quand même assez loin des enjeux, disons, très pratiques. Mais évidemment, c'est des questions qui sont toujours importantes à repenser aujourd'hui, quoi. Après, peut-être pour revenir du coup à ta question qui était Et ben comment est-ce qu'on y arrive au communisme libertaire? Alors du coup, qu'on voit qu'il peut être défini de plein de manières. Alors à la fin du 19e et au 20e siècle, il y a eu un grand débat. Alors, la forme classique, hein, dans les années 1870, quand Reclus et Kropotkine ont pensé ça, c'est évidemment l'insurrection. Les barricades, les insurrections populaires, etc., etc. Et finalement, des insurrections qui, d'une certaine manière, éclateraient partout en même temps, qui se propageraient comme des espèces d'ondes de choc, et qui finalement en viendraient à bout de la société capitaliste globale. Et qui remplacerait ça, du coup, par une société communiste libertaire. Alors, bon, les insurrections, dans les années 1870-1880, elles montrent vite leurs limites. Et donc, globalement, il y a plusieurs pistes qui s'esquissent. Bon, alors, il y a la piste de la propagande par le fait, qui est globalement aujourd'hui une piste abandonnée par la totalité ou presque des courants anarchistes, hein, et très rapidement elle va être abandonnée. C'est l'idée que finalement, en faisant des attentats contre des bourgeois, contre l'Assemblée nationale, que ce soit symbolique ou meurtrier, que ça allait provoquer, disons, l'étincelle qui allait permettre l'insurrection. Parce que l'insurrection ne venait pas, on allait la provoquer. Évidemment, bon, ça n'a pas abouti à grand-chose, à part finalement couper les anarchistes de la société, qui apparaissaient juste comme des terroristes, favoriser leur répression aussi, puisque évidemment, c'est pas hyper populaire, par exemple, de tuer des gens. Et donc, bon, cette stratégie, disons qu'en France, qui va être menée entre 1892 et 1894, va être très rapidement abandonnée. Et du coup, à partir de ça, il va y avoir globalement trois pistes. Un, ça va être la piste du syndicalisme. Deux, l'idée de l'organisation. Et trois, l'idée de la non-organisation. Alors, voilà, et qui sont quand même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quand même des questions un peu centrales. Globalement, l'approche du syndicalisme, c'est dire quoi? C'est dire, bon, dans la société capitaliste existante, il y a des institutions qui sont reconnues légalement et qui s'appellent des syndicats. Et dans ces syndicats, on trouve qui? On trouve les classes populaires. Et donc, si les anarchistes, les anti-autoritaires rejoignent ces syndicats, et que ils y font de la propagande, mais aussi qu'ils répondent, disons, aux demandes plus immédiates des classes populaires, l'augmentation des salaires, la diminution des cadences, etc., eh bien, petit à petit, ils seront gagnés, donc, d'une part, aux idées anti-autoritaires, anarchistes, communistes, libertaires, etc. Et puis, d'autre part, ces syndicats de masse pourront, d'une part, être en mesure de décréter une grève générale, c'est la grande idée de la grève générale, comme on se rend compte que globalement on ne peut pas gagner pendant la Commune de Paris, on pensait encore qu'on pouvait battre l'armée sur son propre terrain, c'est-à-dire le terrain de l'insurrection. Globalement, avec le syndicalisme révolutionnaire, on ne pense plus ça. On pense que globalement l'armée est trop forte, les forces de répression sont trop fortes et qu'il faut les battre sur un autre terrain, et ce terrain ce serait la grève générale. Alors certains l'imaginent plutôt pacifiste, genre on croise les bras et on attend que la société bourgeoise s'effondre. D'autres disent quand même qu'il faut quand même des formes insurrectionnelles, etc., etc. Bon, c'est la grande époque aussi de l'antimilitarisme, donc on pense que il faudra aussi gagner une partie de l'armée en faisant de la propagande en son intérieur. D'une certaine manière, comme on infiltre les syndicats, infiltrer aussi l'armée et faire de la propagande antimilitariste et anticapitaliste en son sein. Donc évidemment, ça divise, puisqu'il y en a qui pensent qu'il ne faut pas aller dans l'armée, parce que de toute façon, l'armée, c'est l'école de la domination et de l'obéissance, donc on ne peut rien y faire. D'autres qui pensent au contraire que si, il faut y aller, parce que c'est comme ça qu'on peut gagner les soldats à la Révolution, et donc finalement permettre que la Révolution soit triomphante. Enfin voilà, l'idée vraiment, c'est le syndicalisme comme moyen, et la grève générale comme, disons, forme de révolution, et ensuite... Là, les gens se divisent. Disons qu'il va y avoir une tendance qui va plutôt considérer que les syndicats ne sont qu'un moyen et qu'ensuite ils vont disparaître et laisser place plutôt au communisme libertaire, c'est-à-dire des sociétés qui sont organisées en commune, alors que d'autres, qu'on va plutôt appeler, disons, les anarcho-syndicalistes, eux vont considérer quand même globalement que les syndicats ne sont pas seulement des moyens, mais sont aussi finalement la forme de société future, anticapitaliste, c'est-à-dire que la société ne serait plus organisée sous forme d'entreprise, ni sous forme de communes libres, etc., mais sous forme de syndicats, qui pratiquent l'autogestion, etc. Alors évidemment, il y a beaucoup de critiques qui vont naître hein, de ce modèle plutôt là du syndicalisme comme aussi nouvelle forme de société, puisque ça pose tout un tas de questions de problèmes qu'on a déjà abordés, c'est-à-dire le risque de recréer une bureaucratie, et c'est ce qui va se produire pendant la Révolution espagnole de 1936, et aussi le risque finalement de perpétuer une logique bureaucratique de la division du travail, etc., etc.
Notamment sur la question des syndicats, il y a plusieurs critiques venues des communismes de gauche, c'est-à-dire des communismes hérétiques au léninisme, et notamment des critiques intéressantes, parce que je pense que la question de la bureaucratie, elle peut se poser à tous les niveaux, dans toutes les organisations, et qu'elle n'est pas spécifique au syndicalisme. Donc je pense que les critiques intéressantes qui viennent du communisme de gauche, elles se posent sur la nature, qu'est-ce que c'est que le syndicalisme à l'intérieur du capitalisme, et aussi, sa nature d'organisation, de négociation de la force de travail, et qu'est-ce que ça, et quelle est la dynamique des organisations, c'est-à-dire que en général les syndicats ils vont devoir avoir des liens patronaux, et ils ne pourront être révolutionnaires que dans la mesure où les patrons refusent en fait la négociation et les maintiennent dans une marginalité, et ce qu'on peut voir avec les IWW aux États-Unis, ou et peu à peu dans la mesure où ils s'intègrent dans la société, ben leurs cadres deviennent plus modérés. Et ça c'est la critique un peu pratique ou organisationnelle du syndicalisme. Mais il y a aussi la critique de la division du travail, comme tu l'as énoncé, qu'une société basée sur le syndicalisme serait une société aussi basée sur les formes, la division entre industries du syndicat. La société immédiatement après la révolution maintiendrait la division du travail capitaliste entre usines, et que du coup de ce point de vue, comment dire, les communistes de gauche ils vont mettre un bannissement général sur le syndicalisme, ils vont le voir comme une forme vouée à la défaite, mais en tout cas on peut voir que en tout cas la forme qui veut l'abolition des syndicats après la révolution a beaucoup plus de sens que leur maintien.
Oui non mais ça c'est en vrai les critiques que tu voilà du syndicalisme qu'on trouve effectivement dans le communisme de gauche, dans l'ultra gauche, comme finalement le syndicalisme comme étant finalement s'il veut réussir, s'il ne veut pas être réprimé et finir dans la marginalité comme les IWV, est condamné d'une certaine manière à être finalement un co-gestionnaire du capitalisme, à simplement négocier la valeur de la force de travail, comme tu l'as dit, eh bien, évidemment, c'est des critiques qu'on trouvait déjà au début du XXe siècle. Hein. Par exemple, Malatesta, lors du congrès d'Amsterdam de 1907, disait « Oui, il faut que les anarchistes s'organisent, il faut qu'ils arrêtent de se couper des masses, la stratégie des attentats, la propagande par le fait, c'est de la merde. » Mais il disait bien que le problème avec le syndicalisme, c'est que tendanciellement, eh bien, même les anarchistes allaient se transformer en gentils bureaucrates, négociateurs de la force de travail, avec un vague idéal révolutionnaire. Et effectivement, l'avenir ne lui a pas entièrement donné tort, puisque le plus puissant syndicat anarchiste du monde, la CNT, en 1936-1937, s'est transformé en une force de collaboration antifasciste avec le gouvernement républicain, les gouvernements bourgeois de France et d'Angleterre, et qui finalement a joué un rôle, ça c'est disons quelque chose qu'on montre dans les émissions qu'on a faites avec les géminologues, a joué un rôle proprement contre-révolutionnaire en 1936-1937. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est très important, et c'est pour ça d'ailleurs que dès le début, certains dans le courant anarchiste et anti-autoritaire étaient très sceptiques vis-à-vis de la question du syndicalisme. Alors après, il y avait aussi un autre débat, évidemment, parce que tu as bien dit que finalement, ces problèmes de bureaucratie, de hiérarchie, ça peut se poser aussi dans le cadre d'organisations anarchistes. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et on voit jusqu'à aujourd'hui que les organisations anarchistes, même si, disons qu'elles sont basées sur l'idée d'une horizontalité et d'une démocratie directe, interne, etc., qui est évidemment bienvenue, et qui, sans doute, disons, favorise moins les phénomènes de pouvoir qu'une organisation qui serait d'emblée centralisée, disciplinée et bureaucratique comme un parti, peut y avoir en leur sein des formes, disons, de domination qui se créent autour de tel chef, de tel leader objectif, comme diraient certains. Et du coup, certains, dès le début du XXe siècle, notamment en Italie, ils étaient communistes libertaires, hein, pour autant, mais ils disaient non, il faut être contre l'organisation. C'est ce qu'on appelle les anti-organizzatori, qu'on trouve par exemple en Italie autour de quelqu'un comme Luigi Galeani, et qui était un peu différent des individualistes qui existent par exemple en France, en Belgique à la même époque. C'est-à-dire que ils sont pas nécessairement, c'est pas parce que c'est des gens qui sont contre l'organisation qui sont contre l'idée d'une société communiste libertaire. C'est ça qui est assez assez paradoxal. Mais disons qu'eux, ils pensent que pour aboutir au communisme libertaire, il ne faut pas créer d'organisation parce que les organisations inévitablement recréeront de la bureaucratie, de la hiérarchie, de la division du travail militant, etc., etc. Alors après, je pense que même si évidemment ce genre de critique de l'organisation peut aboutir finalement à une forme d'impuissance et une forme finalement d'individualisme problématique puisque du coup il condamne à l'impuissance le mouvement social, je pense qu'il a quand même cet avantage de penser le fait que l'organisation en elle-même est un problème et pas simplement une solution. Certes, c'est une solution notamment à l'impuissance, et c'est ce qu'on va voir, par exemple, les anarchistes dans les années 1920 autour de la plateforme vont considérer que la révolution russe, disons, a été un échec pour les anarchistes parce que précisément il n'y avait pas d'organisation suffisamment forte pour répondre notamment aux gros enjeux comme par exemple la guerre civile, la nécessité de s'unir pour lutter contre les bolcheviks. Donc la question de l'organisation, c'était une vraie question, mais malgré tout, voilà, en même temps, la perspective comme la plateforme, par exemple, dans les années 1920, va être très critiquée en disant, encore une fois, le problème, c'est qu'en créant une organisation centralisée des anarchistes, où il y a une forme de solidarité collective, où quand il y a une décision, il faut que tout le monde la respecte, est-ce que ça ne risque pas de créer les mêmes mécanismes de domination, de hiérarchie, de bureaucratie que dans les partis ? Et d'un autre côté, entre guillemets, les partisans de l'organisation auront toujours beau jeu de répondre, oui, mais finalement, le fait de ne pas avoir organisation, ça fait que par rapport à des partis comme les bolcheviks, on se condamne à l'impuissance, et donc on se condamne à ce que ce soit toujours les autres, entre guillemets, qui tirent les marrons du feu de la révolution et qui réinstaurent une forme, nouvelle forme de domination, là où, nous, les anarchistes, on était censés vouloir l'abolir.
Mais c'est là où je pense que toutes ces critiques sont intéressantes, mais... comment dire, si on s'en tient à des rigueurs théoriques qui refusent toute forme d'organisation, il n'y aura rien. Et si on n'a aucune forme de critique, on est incapable de voir la dégénérescence des organisations. Et je pense que c'est précisément dans la pratique que en fait, justement, moi, c'est là où je critique, par exemple, de dire pas de syndicat, pas de parti, pas d'organisation. C'est-à-dire que c'est une sorte de pureté, de refuser de mettre les mains dans la boue. Comment dire, il y a un sens dans le fait d'observer la dégénération là où elle apparaît, tout en se maintenant proche de ce qui peut dégénérer. Quoi.
Oui, je pense que tu as tout à fait raison de dire que, évidemment, tous ces débats, ce sont des débats qui ont été pratiques, très pratiques à un moment, qui sont très intéressants, qui sont toujours enrichissants pour penser aujourd'hui les modalités et les stratégies de lutte anticapitaliste d'une manière qui soit réellement émancipatrice, qui ne reproduise pas, encore une fois, des nouvelles formes de domination. Et qui en même temps soient suffisamment efficaces pour pouvoir vaincre le capitalisme. Parce qu'évidemment, le gros avantage des bolcheviks, diront-ils, c'est que eux ont réussi à renverser le capitalisme. Il y a la question à la fois de la stratégie, et en même temps, je pense que la question d'efficacité, elle doit se penser à deux niveaux. L'efficacité à vaincre le capitalisme d'une part, mais aussi l'efficacité en termes d'émancipation. Et donc finalement, si on est efficace que d'un côté, effectivement, on peut partir sur une organisation militaire ultra hiérarchique. C'est vrai qu'une armée, c'est très efficace. Après, le problème, c'est qu'à partir d'une armée, créer une société émancipatrice, c'est très compliqué. D'un autre côté, si à l'inverse, on refuse toute forme d'organisation, effectivement, c'est plus compliqué de lutter contre une armée. Et donc, effectivement, peut-être qu'il faut repenser les modalités de la lutte et pas penser comme une armée, puisque ça ne peut aboutir que à un échec. Que ce soit un échec par la répression d'un mouvement révolutionnaire ou un échec par le triomphe de ce mouvement révolutionnaire et sa transformation dans une nouvelle société de classe dictatoriale et bureaucratique. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que effectivement tous ces débats à un moment ils ont été pratiques, mais le problème c'est qu'ils ont toujours été très polarisés. C'est que à chaque fois ils ont été polarisés et c'est logique, hein, c'est comme ça que tous les débats se font. Il y a une position et il y a une position antagoniste qui se crée. Les débats entre collectivistes et communistes, libertaires. Les débats entre marxistes et anarchistes, les débats entre syndicalistes et antisyndicalistes, entre organisateurs et anti-organisateurs. Et donc tous ces débats, évidemment, ils sont riches, ils sont très intéressants, mais je pense que effectivement, comme tu dis, il y a quand même aujourd'hui un intérêt fondamental à ne pas rester, disons, à ne pas chercher à s'inscrire dans un camp. Et je pense que c'est ce qu'essaye de faire sortir du capitalisme, notamment en invitant des gens qui sont de positionnements différents, qui eux sont, ont tendance à être polarisés, mais disons, voilà, mais ne pas inviter que des gens d'une seule des polarités. Et à mon avis, je pense que c'est justement en cherchant à dépasser ces polarités, en cherchant à la fois à penser l'organisation, mais en étant critique vis-à-vis de l'organisation, en ayant une position, par exemple, par rapport aux syndicats, qui soit ni l'idée que les syndicats sont c'est le véhicule idéal de la révolution, éventuellement la forme future de la société, ni que c'est quelque chose qui doit être absolument combattu et rejeté, puisqu'évidemment, force est de constater que les moments dans l'histoire où l'anarchisme a été le plus puissant, a touché le plus de gens, c'est quand même en s'infiltrant dans les syndicats, la CGT avant 1914 en France et la CNT en Espagne jusque 1936-1939. Voilà, mais je pense que tu as raison, et je pense que là où finalement tous ces débats sont très intéressants, mais aujourd'hui gagneraient à être repensés, et c'est là où, par exemple, je pense que quelque chose comme la théorie de la communisation est intéressante, c'est que la théorie de la communisation va précisément chercher à dire que finalement, plutôt que de penser les formes de lutte idéales dans l'abstrait, c'est-à-dire, bon, ça va mieux marcher que ça, ça va mieux, ça va donner une société plus émancipatrice que ça, plutôt être dans une posture, bah, notamment d'observation de aujourd'hui, quelles sont les conditions dans tel pays, telle année, tel secteur, etc., et voir quelles sont les formes de lutte qui émergent, et aussi, voilà, d'être attentif finalement à ces formes de lutte, à la fois dans ce qu'elles ont d'intéressant, de potentiellement révolutionnaire, comme les gilets jaunes par exemple, et en même temps être aussi attentif à leurs limites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de passer d'une forme de fétichisation de telle ou telle stratégie, genre l'anarcho-syndicalisme, le communisme libertaire anti-organisateur, etc., à une forme de fétichisme de tout ce qui arrive est bon. Et je pense que du coup, voilà, encore une fois, c'est encore une fois, je pense, dépasser ces apories qu'on trouve dans la pensée révolutionnaire, soit d'adhérer à ce qui existe, soit d'adhérer à un modèle abstrait qui ne peut pas fonctionner partout, quoi, et tout le temps, et même qui ne peut pas être viable s'il n'est pas tout le temps critiqué de l'intérieur comme de l'extérieur.
Mais c'est vrai que ça, c'est très intéressant, et comment dire, je pense que c'est une approche de la réalité beaucoup plus saine que, et pareil dans les devenir révolutionnaires, quoi, que ce soit Friot, en fait, les modèles un peu utopistes, comme le dit Marx, dans le sens de ceux qui créent des petits modèles en vase clos et qui veulent les projeter dans le futur, on peut les retrouver aussi dans l'organisation, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il faut ni dire oui à tout, ni dire non à tout, et c'est vraiment dans l'analyse de ce qui existe et de ce qui devient qu'on trouvera les façons d'ouvrir le futur, quoi. Parce qu'au final, c'est ça aussi, c'est la critique des vases clos et des formes d'organisation, et aussi des formes de société, comme par exemple Friot ou plein d'autres, c'est vraiment, ils ferment le futur, en fait. Ils ferment le devenir révolutionnaire. Alors que précisément, la révolution, son but, c'est l'ouverture. Comment dire, que l'horizon de l'activité humaine s'ouvre et puisse s'autodéterminer.
Oui, oui, et par rapport justement à cette fin d'une ouverture des possibles, à ce but d'une ouverture des possibles, eh bien, il faut du coup aussi être dans une ouverture des possibles en termes aussi stratégiques. C'est-à-dire arriver, par exemple, à penser la question de l'antifascisme au-delà de l'alternative entre, d'un côté, le fait de finalement faire prévaloir la question de l'antifascisme sur tout le reste, quitte à voter Macron, quitte à collaborer avec toutes les forces antifascistes, quitte à collaborer avec les staliniens, les libéraux, les républicains, etc., etc. Et en même temps, le fait de refuser de penser cette question de l'antifascisme et de penser que finalement le fascisme, c'est qu'une forme de capitalisme comme les autres, ni pire ni meilleur, ça peut aboutir finalement, dans le meilleur des cas, à un aveuglement et une impuissance face à la montée du fascisme ou du néo-fascisme comme aujourd'hui, et dans le pire des cas, carrément à rejoindre le camp du fascisme, comme ça s'est produit dans les années 70 avec une certaine partie de l'ultra-gauche négationniste. Mais je pense en tout cas que tu dis, c'est vrai, et je pense que finalement c'est une assez bonne conclusion. C'est-à-dire, la question de sortir du capitalisme, comment et vers quoi, je pense que d'une certaine manière, la véritable question, c'est vers quoi ne pas aller et comment ne pas aller. Et je pense que finalement, toute cette rétrospective, et puis évidemment qui est développée dans tout un tas d'émissions, je pense que le véritable point qu'on cherche à faire, c'est non pas dire il faut faire ça de telle manière, avec tel horizon, même si évidemment On peut trouver certaines formes de stratégie ou certains devenirs évolutionnaires plus souhaitables que d'autres. Mais malgré tout, je pense que le véritable intérêt, et c'est pour ça qu'on a essayé de l'aborder plus par le biais de la critique que par le biais de l'utopie, comme tu dis, hein, l'utopie, elle a ses avantages parce qu'elle donne un idéal qui peut être mobilisateur, etc. Mais en même temps, elle ferme les possibles. Et finalement, de toute façon, c'est pas ce qui va se réaliser. Enfin, je pense que le véritable point, c'est de dire, en examinant toutes ces formes, à la fois d'horizons qui ont été pensées, le communisme libertaire, le collectivisme, l'anarcho-syndicalisme, et en examinant toutes ces formes d'organisation ou de non-organisation, de stratégie qui ont tenté de répondre à la question que faire, et là-dessus, il peut aussi avoir la réponse que finalement, les révolutionnaires n'ont rien à faire. Hein. Par exemple, c'est le cas de la tendance, par exemple, échanger mouvement, qui va considérer que finalement, entre guillemets, c'est le prolétariat qui va faire la révolution tout seul, et que nous, on n'a rien à y faire. Et en vrai, c'est une position qui est intéressante, même si d'un autre côté, elle a ses limites et elle peut aussi se condamner à l'impuissance. Mais enfin voilà, en tout cas, je pense que tout ce débat, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les limites de à la fois des stratégies et à la fois des horizons, et plutôt que de chercher à s'arc-bouter sur une forme de lutte, une forme de stratégie, et d'une part, et une forme d'horizon en termes de société d'autre part, même si en disant ça, ça ne veut pas dire finalement que du coup tout est possible, tout est souhaitable, y compris les approches finalement machiavéliques ou finalement ce qui compte c'est les fins et pas les moyens, on peut employer tous les moyens, mais je pense que justement par ce travail du négatif, on n'y aboutira pas, parce que finalement, si l'idée c'est d'écarter toute forme d'organisation et toute forme de société qui soit basée justement pas sur l'émancipation et l'égalité et la liberté, etc., d'écarter voilà toutes ces formes d'organisation et d'horizons qui reposent finalement sur les hiérarchies, la discipline, la division du travail, la destruction de l'environnement et du climat, etc. Je pense que rien que comme ça, on aura quand même un horizon à la fois suffisamment restreint pour pas que ça parte en couille et en même temps suffisamment large pour justement être capable de faire des interventions utiles. Et parce que si on s'arc-boute sur un seul mode de stratégie ou un seul type de forme de lutte, souvent on se condamne à l'impuissance et on va ressembler à ces militants de la CNT des années 60-70 qui étaient complètement déphasés avec leur temps et qui ont complètement échoué quand ils sont retournés en Espagne après la transition démocratique, après la mort de Franco, complètement échoué à recréer un mouvement anarchiste parce que les temps avaient changé, ils n'ont pas réussi, eux, à évoluer, et donc finalement, ils ont loupé le coche. Quoi.
C'est sûr qu'il y a les deux choses, il y a le non absolu qui se résigne à n'être rien, et après il y a le oui absolu qui a été le oui du marxisme pendant longtemps, en tout cas une sorte de nihilisme marxiste qui acceptait l'histoire en fait. Comment dire, vu que tout n'était que le véhicule du mouvement de l'histoire, et ben on pouvait dire oui à tous les crimes, à tous les meurtres, précisément parce que c'était l'histoire et que l'histoire avançait comme ça. Et que je pense que du coup l'horizon peut nous servir comme une sorte de boussole dans les événements, mais en même temps une boussole qui doit évoluer, qui doit se remettre en question, précisément parce qu'elle est subjective et le produit d'une situation, et en même temps une ouverture à ce qu'est notre société actuellement, genre. Oui, surtout si on regarde la gauche d'aujourd'hui, où entre les trotskistes qui ressassent 1917 et leur défaite, et les anarchistes qui ressassent 1936 et leur défaite, et des choses qui sont dans des situations extrêmement particulières, avec des conditions particulières, et aussi les autonomes qui ressassent les années 1970, les formes d'organisation sont aussi contingentes au moment où elles sont. Ça veut pas dire que c'est pas du tout intéressant de comprendre en profondeur, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un recul pour en fait sortir de nos dogmatismes et en même temps comprendre ce qui a échoué et ce qui peut gagner, quoi. En fait, c'est vraiment un mouvement, de pensée dynamique, presque.
Oui, non, t'as tout à fait raison. Effectivement, il s'agit de, entre guillemets, tirer les leçons du passé, mais de bien avoir conscience que l'histoire ne se répète jamais. Donc c'est ça un peu le paradoxe, c'est que à la fois on ne veut pas que l'histoire se répète, donc il faut s'intéresser aux erreurs passées entre guillemets, et en même temps l'histoire ne se répétera de toute façon jamais, en tout cas jamais à l'identique. Tout comme on dit qu'il faut avoir un rapport, disons, à ces questions stratégiques, qui soit pas dichotomique, soit on va dans un camp, soit on va dans un autre, mais rester critique finalement. Mm. Critique, à la fois critique et ouvert vis-à-vis de ces différentes options, du moment qu'elles sont potentiellement émancipatrices, disons. Je pense que c'est pareil, le rapport au passé, il doit être aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on doit s'en nourrir. Mm. Je pense que les mouvements gagnent à connaître le passé des révolutions défaites, ou triomphantes, mais qui ont abouti finalement à une contre-révolution, comme la révolution russe. Mais en même temps, on ne peut pas... Et on ne peut pas ressasser, on ne peut pas penser que la révolution va se passer de la même manière. De toute façon, elle ne se passera pas de cette manière-là. Et du coup, je pense que ce que tu disais, et c'était intéressant, voilà, c'est l'idée de penser les situations. Et je pense que là-dessus, la communisation, finalement, elle offre pas tellement de réponses, entre guillemets. Elle n'a pas les grandes réponses, comme les anarchistes, les marxistes, les communistes libertaires, etc., sur quelle sera la société future ou quel type d'organisation et de stratégie il faut adopter. Mais par contre, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans la communisation, c'est justement l'idée de penser les situations révolutionnaires ou simplement émeutières ou simplement les mouvements sociaux, non pas à partir d'une sorte de référent fixe qui serait, bon, à l'aune du syndicalisme révolutionnaire, on peut penser ça. À l'aune de la critique ultra-gauche, des partis, des syndicats, on peut penser ça. Ou à l'aune de l'anarchisme ou à l'aune de la critique de la valeur. Non, justement, essayer de penser les situations telles qu'elles sont, en étant lucide à la fois sur leurs forces, c'est-à-dire bon bah les gilets jaunes, effectivement, par rapport aux mouvements sociaux, ça renouvelle quand même les formes de lutte, ça aussi, ça mobilise une autre partie du prolétariat, etc. Et en même temps, en étant attentif à leurs limites, notamment la composition de classe des gilets jaunes, leur absence finalement d'horizon au-delà de l'État et au-delà du capitalisme, etc., etc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la communication aussi, c'est de penser les deux, à la fois les forces et les limites.
Je vous renvoie, pour creuser un peu plus ce sujet, à toutes les émissions qu'on a fait sur l'anarcho-syndicalisme, sur l'autonomie, sur le communisme libertaire, sur la communisation, sur toutes les théories qu'on a développées et tous les moments historiques révolutionnaires. Et merci d'avoir écouté cette émission. Au revoir.
Au revoir. Spectre.